dénoncés par les médias. Les trois pouvoirs ne sont plus réunis. Le judiciaire et le médiatique, par exemple, jouent des partitions qui leur sont propres, si bien que n'importe quel scandale ou n'importe quelle délibération de juge atterrit dans des salles de rédaction et sont portés à la connaissance du grand public. Pour aller dans le même sens, c'est-à-dire le fait que ces crises de légitimité qui atteignent les médias de masse comme le régime de la démocratie représentative ont comme fondement un délitement des institutions qui les supportent. On pourrait prendre comme exemple les jeux télévisés dans les années 60 aux États-Unis. On le sait maintenant, ces jeux étaient truqués. Or, vous imaginez le nombre de personnes qui devaient porter ce mensonge. Hein, les participants au jeu, l'animateur, la production. Et malgré ça, le secret était tenu. Ce serait impossible aujourd'hui. Ce serait impossible parce que la légitimité de l'institution est mise en cause. Et si cette légitimité est mise en cause, eh bien, par tous les ports, les scandales font surface. Le scandale est une conséquence de la méfiance, il me semble, et non pas l'inverse. Alors, troisième point, l'affirmation de l'image et du scénario simulé comme preuve. Alors, je disais tout à l'heure, une nouvelle formule de croyance apparaît, je crois, parce que j'expérimente. On peut en trouver exemple de cette formule à travers le développement des wargames sur Internet, dont la première forme très claire est apparue au moment de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. On a vu des sites de wargames se transformer, hein, qui auparavant jouaient des batailles célèbres, Austerlitz, les taxis de la Marne. Ces sites de wargames ont modélisé le conflit dans l'ex-Yougoslavie en cours, allant même jusqu'à modéliser l'intervention, le bombardement de la Serbie par les troupes de l'OTAN et l'intervention terrestre avant même qu'elle n'ait lieu. Alors, modéliser, entendons-nous, hein, ça ne veut pas dire prévoir, ça veut dire, en revanche, engager une discussion sur les bons paramètres de représentation de l'événement en train de se dérouler. Et ce qui était intéressant dans ces sites, c'est plutôt les discussions dans les forums sur les paramétrages du modèle plutôt que la portée prédictive de ce même modèle, à laquelle personne évidemment ne peut attacher une portée très 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 importante. Ces formes d'expérimentation de l'événement historique en train de se dérouler se sont largement propagées dans la dernière période, notamment aux États-Unis, sont apparues des firmes, alors plus ou moins dans le sillage du Pentagone, mais qui ont une certaine existence autonome, modélisant des conflits en cours, des jeux, on ne peut pas les appeler autrement, des jeux comme donc ceux que la firme américaine Kumawar réalise sur des missions dans la guerre en Irak, par exemple. L'attaque d'une villa à Mossoul où étaient réfugiés les fils de Saddam Hussein, extrêmement réaliste, réalisée avec en tenant compte de toute la documentation technique fournie par l'armée américaine. Des éditions récentes confirment ce virage des jeux vidéo vers un traitement d'actualité. La chute du Faucon Noir, par exemple, qui restitue la désastreuse opération américaine en Somalie il y a quelques années. Des art fights, la première guerre du Golfe. Je cite le directeur marketing de Vivian Liu en Grande-Bretagne. On assiste depuis 2 ou 3 ans au triomphe des jeux aussi réalistes que possible, et il ajoute, peut-être est-ce dû au fait que les gens se sentent plus à l'aise dans un univers qu'ils reconnaissent à cause des similitudes avec les films et la télévision. Relier les jeux à l'actualité va les rendre hyper réels. Bon, certaines analyses concernant les stratégies de développement des jeux vidéo considèrent que les jeux vidéo politico-réalistes sont la grande plage de développement des jeux vidéo après l'héroïque fantasy ou les films. Qui d'ailleurs, les films qui font partie d'ailleurs, d'une certaine façon, eux aussi, de ces de cette tendance générale. Bon, enfin, proximité avec le rejet des élites, hein, qui est une composante de la théorie du complot, j'y viens maintenant donc dans la deuxième partie de mon propos. Alors, je pense que le soupçon possède une double face. Le soupçon, d'une part, il exprime une conquête, on pourrait dire au choix, une aspiration à l'autonomie du jugement, une critique des pouvoirs, une valorisation de l'horizontalité sur la verticalité, valorisation qui est d'ailleurs à la source de l'invention d'Internet, une revanche de l'immanence sur la transcendance, de l'instituant sur l'institué. Cette face était assez enthousiasmante dans un premier temps, les années 90, et on pouvait y voir, j'y voyais volontiers comme bien d'autres, notamment dans Internet, un opérateur politique assez puissant pour donner l'assaut aux citadelles des pouvoirs institués. L'autre face du soupçon, actuellement, provoque dans des conditions de crise des modèles politiques, et notamment, on peut parler il y a quelques instants de la démocratie représentative, c'est-à-dire, on a un même moule pyramidal, médias de masse ou démocratie représentative, finalement, c'est le schéma de la pyramide, et donc le même type de désaveu. Donc dans ces conditions, une sorte de vertige apparaît lié à l'absence et ou au refus des références. Sommet de penser par soi-même, chacun et ou chaque groupe est conduit à construire sa propre grille référentielle. Car bien entendu, ce processus n'est pas purement individuel, il se construit collectivement, on va le voir avec l'exemple du référendum. Donc cette discussion publique au sujet du projet de constitution européenne et son rejet me semble très éclairant sous cet angle et révélateur aussi. On sait qu'Internet a joué un rôle majeur dans cette discussion et que les partisans du non en ont été les principaux animateurs et participants. On estime à plus des deux tiers le nombre de sites qui ont milité en faveur du non. Tous ceux qui ont valorisé la crise du modèle pyramidal de l'information et de la croyance, dont les principes radiculaires, c'est-à-dire le développement en réseau, sont à la fois la cause et la conséquence, devraient s'en réjouir. Mais le paradoxe me semble saisissant entre une forme de discussion publique quasiment idéale, on voyait le peuple qui s'emparait d'une question que les élites avaient cru pouvoir transformer en une formalité, et un positionnement politique, donc en faveur du non, grevé, il me semble, des pires inerties nationalistes. Alors, je précise que je ne compte pas développer ici une discussion sur les raisons pour lesquelles le vote oui ouvrait, me semble-t-il, des horizons les plus riches. Alors, je n'ouvre pas cette discussion avec le risque, bien sûr, que ce questionnement ne puisse être entendu que par ceux qui ont approuvé le projet de constitution, mais peut-être aussi un petit peu au-delà. On peut définir la théorie du complot comme un doute permanent qui affecte tous les consensus et qui dérive donc naturellement vers le révisionnisme, qui peut facilement dériver vers le révisionnisme. Comment donc cette théorie du complot, qui est irriguée en permanence les motivations du rejet du projet de la Constitution, peut-elle nourrir une discussion publique d'une forme démocratique impeccable? Ça, c'est le fond de mon questionnement. Les dérives révisionnistes actuelles à propos du 11 septembre d'un Chouard, j'évoque ici le cas d'Étienne Chouard, qui fut l'un des principaux animateurs de la dissection du traité portant donc projet de la Constitution européenne, dissection sur le net, qui est devenu de ce fait une figure du citoyen s'essayant victorieusement à l'expertise publique grâce au réseau. Sa trajectoire n'est peut-être pas qu'une anecdote. Vous savez peut-être que ce même Chouard, le 9 décembre dernier, recommandait la vidéo d'un entretien passionnant, selon ses propres termes, entre Thierry Messiaen et Alain Soral, triste figure de l'antisémitisme moderne, Soral, à l'occasion de la sortie du dernier livre de Messiaen, L'effroyable imposture, où Messiaen met en cause le déroulement du 11 septembre, affirmant qu'en réalité, il s'agit d'une opération montée en lien entre le Pentagone et le Mossad. Thierry Messian, je cite Chouard, hein, Thierry Messian dit là, comme il dit Chouard, des choses que je trouve très intéressantes, qu'on ne lit presque pourtant jamais. Hein, comme le disait mon ami Bernard Chalcha, Étienne Chouard sera-t-il le futur florisson de l'altermondialisme? Alors, le débat public sur le référendum concrétisait, je le disais, presque idéalement, le projet habermasien de discussion démocratique publique, les lumières de la rationalité démocratique contre la manipulation étatique. C'est ainsi que les partisans de la gauche du non se représentent ce moment politique. Or, il me semble que ce type de forme éminemment démocratique, au sens littéral du pouvoir du peuple, peuvent véhiculer des motivations bien sombres, le nationalisme en l'occurrence, pour ne pas dire catastrophique. Il est difficile alors de jouer la raison contre les passions, ce qui a été toute l'ambition des Lumières. Alors, je sais bien que défendre la rationalité comme boussole de la politique est assez discutable, voire chimérique. On ignore, si on la prend uniquement comme boussole, hein, la rationalité, on ignore quantité d'autres motivations bien légitimes, comme les positions sociales, les intérêts qui en découlent. On oublie aussi que les fameuses passions joyeuses spinozistes doivent certainement orienter, elles aussi, les désirs politiques, mais sans un minimum de rationalité, et quel est ce minimum, je ne sais pas exactement, mais sans un minimum de rationalité, il me semble certain qu'on laisse libre cours aux passions les plus tristes, comme précisément le nationalisme. Alors, je préciserai pour conclure que je ne suis nullement nostalgique des formes pyramidales, hein, qui me semblent, et heureusement, historiquement condamnées. D'où la question, comment dans un cadre réticulaire, dans le cadre donc de l'existence de relations par réseau, hein, par réseaux horizontaux, comment trouver les antidotes à cette affection dangereuse qui menace de contaminer l'élaboration collective par la théorie du complot. Si on exclut le retour donc aux formes transcendantes autoritaires, bien entendu peu désirables et surtout impossibles, pour raison que j'ai évoquée dans la première partie de mon propos, une voie possible réside peut-être dans l'ajustement collectif progressif, voie qui est préfigurée par les délibérations des producteurs de logiciels libres, mais là, la démonstration opérationnelle tient lieu de référence, puisque ce qui démontre la validité de telle ou telle proposition, c'est que ça marche. Hein. On pourrait évoquer aussi les formes de contrôle collectif des wikis, comme Wikipédia, par exemple, où une communauté se corrige elle-même, mais dans ce dernier cas, la seule vaccination contre les dérives révisionnistes en tout genre, c'est le présupposé d'une disposition collective minimum non contaminée par le complotisme. Alors, je dirais pour conclure qu'une sorte de course-poursuite est engagée entre ces deux tendances, le complotisme d'une part, et l'activité collective de construction d'acquis, que Tony appelle, si je comprends bien, le commun. Et dans cette course-poursuite, le gagnant n'est pas encore, à mes yeux, déterminé. Nous avons, en tout cas, à prendre toute la mesure du risque de contamination.